Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Orgasme et moi. Généralement, il n'en faut pas beaucoup plus pour que vous sachiez de quoi l'on parle. Ici, vous êtes sur un compte Instagram qui parle de sexualité positive avec bienveillance. Charline Vermont, derrière ce compte phénomène, publie en ce début d'année un livre essentiel pour l'éducation à la sexualité positive. Voilà, c'est un énorme programme, c'est hyper bien fait. On a adoré la recevoir, merci à elle. Et voici notre discussion. Attention, je vous préviens, vous allez avoir envie de l'offrir à tous les parents et à tous les enfants de votre entourage. C'est parti. L'Affranchi Podcast, la librairie chez vous. Bonjour Charline.
Coucou Sozik.
C'est super chouette de te revoir, ouais. Puisqu'en effet, quand on remet comme ça les choses dans l'ordre, on incroyable. S'était rencontrés de manière assez spontanée dans un bar de nos voisines, l'Idéal, où tu faisais, alors ce que moi j'avais appelé un sex talk, c'était ça.
Exactement, c'était les ancêtres des meet-up, et c'est vrai que dès ce moment-là, il y avait peut-être 70 000 abonnés à cette époque-là, et en fait, il y avait déjà énormément de volonté de se rencontrer, et du coup, j'avais fait une espèce de tour de France pour parler d'éducation à la sexualité avec les gens de la commune. J'étais passée à Toulouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Lyon, Genève. Et du coup, ouais, passage par Lille. Et là, j'ai reçu un drôle de message dans mes DM disant « Coucou, on est une petite librairie à Lille, est-ce qu'on peut se joindre ?» Je sais pas, si tu veux, absolument, oui, viens. Et en fait, je salue le travail, quoi, parce que pour faire venir des auteurices ici à Lille, créer ces événements pour en parler, il n'y en a pas deux en France, c'est-à-dire, voilà, juste bravo à vous pour l'initiative, voilà, je suis ravie d'être là.
Ben, ça fait super plaisir, mais c'est vrai que en fait les rencontres c'est des moments, enfin pour moi voilà, c'est pour ça aussi que je fais ce métier-là, en fait pouvoir parler des livres, les faire vivre, les faire circuler, et aussi évidemment rencontrer les autrices et quelques auteurs, faut quand même le préciser, mais surtout les autrices. Et ce moment en fait, ce qui était drôle, parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on était à l'Idéal.
C'était en novembre 2019.
Ouais voilà c'est ça. Ça commence. Vrai en même temps on a l'impression qu'il y a un monde entier qui, enfin une vie entière qui est passée depuis.
Mais un rouleau compresseur. Ouais.
C'est ça, c'est un peu ça. Et c'était une des premières fois en fait où j'assistais à ce genre de cercle de parole où en fait les jeunes présents, parce que c'était quand même des jeunes adultes, ouais. S'ouvraient totalement à toi et à leurs questions sur les sexualités, partageaient leur expérience. Et je me souviens que j'avais été mais complètement ébahie en fait de cette liberté de parole en me disant j'ai tellement l'impression d'être vieille moi et ma pudeur, moi et ma timidité sur ces sujets-là. Donc évidemment le temps a passé et même si j'ai vieilli, on va dire que j'ai grandi. Merci. Voilà, ce n'est plus du tout la même façon en fait que j'ai d'entendre et de parler de sexualité qu'à l'époque. Ouais. Mais je me souviens de ma grande surprise de cette liberté de parole et de toutes ces expériences partagées. J'étais mais complètement subjuguée en fait par leur vie, quoi. Je les aurais écoutées pendant des heures. Bon, il y avait un peu de curiosité quand même, mais bon, c'est aussi le jeu de ces rencontres-là. Donc aujourd'hui, on te reçoit pour un livre phénomène. On peut dire comme ça. En ce moment, ça arrive et c'est absolument formidable. Ce sont des livres qui étaient tellement attendus que ils deviennent rares et sont complètement épuisés quelques jours après leur sortie. Ce qui est quand même dans le monde du livre un phénomène incroyable, parce que bah voilà, le livre certes c'est magnifique et génial, mais c'est quand même pas non plus des matières à best-seller comme ça tous les jours. Donc il y a eu cette fameuse première commande qui est arrivée, qui ne m'a même pas laissé le temps de le consulter, de le lire, puisque je n'en avais plus dans la journée.
Oh, du coup toi t'as le premier livre que je vois de la deuxième édition.
Voilà.
Attends, je peux le voir.
Mais évidemment le voilà.
C'est toi qui a fait.
Puisqu'on l'a reçu en avant-première ce matin, incroyable. Avant tous les autres libraires. Donc
c'est ça. mais c'est mon Dieu, petit moment trop, de... j'ai l'impression d'avoir le Graal dans les mains. Tu sais, c'est le Dahu parce que je passe ma vie à répondre à toute ma commu qui attend cette... Et alors, attends, j'ai un moyen, j'ai un test. Oui, c'est la deuxième édition. Il y avait une erreur sur la légende en page 29. Dans la première édition, j'ai dit, c'est bon, c'est bien la deuxième.
Yes.
C'est bon. Mon éditeur a bien fait son taf.
Merci, Albin Michel.
Ah ouais, merci, hein, je suis très émue.
Ben voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de consulter ton livre sur Internet, puisque c'est ton éditrice qui m'a envoyé une version numérique pour que je puisse quand même le lire avant ta venue. C'est quand même la base. Et donc, je l'ai lu, là, hier soir, d'une traite. Et j'étais mais passionnée. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas d'enfant pour vivre cette expérience? Non, mais c'est vrai. Alors, je me suis déjà dit, bon, alors, je vois ma fille dans pas longtemps. OK, checkpoint, on va voir. Elle va avoir 6 ans, donc on est parfait. Okay. On va pouvoir voir les étapes, etc. Mais c'est ça aussi la force de ce best-seller, de si jeune best-seller de quelques semaines, c'est qu'on a envie de le prendre en main immédiatement. On a envie de le transmettre à tous les enfants et à tous les parents de nos entourages et de dire, mais en fait... là, t'as une solution à un souci quand même qu'on soulevait depuis très longtemps dans la sphère féministe et dans la sphère parentale, hein, en général. C'est cette fameuse question de l'éducation sexuelle. Si j'avais une technique, on aurait pu faire des tambours en mode papapapam. Voilà, c'est ça. Puisque ce sujet est quand même assez incroyable. L'éducation sexuelle, on a quand même laissé l'école porter en fait ce poids-là depuis déjà quelques dizaines d'années. Et sans que il y ait des formations spécifiques, sans qu'il y ait des programmes, etc. Et on sent bien que c'est peut-être pas l'endroit idéal, en fait, pour transmettre, ou en tout cas, ils se sont pas emparés de cette question-là de manière positive. Ils se sont tout de suite jetés sur le côté pathologique de la sexualité.
Bah, en fait, c'est quand même une vraie bonne question et à laquelle je vais pas forcément apporter de réponse aujourd'hui. C'est est-ce que c'est le rôle de l'école d'aborder des questions liées à l'intimité et à la sexualité? C'est une grande question. En fait, pour plein de sujets, l'école est parfois l'endroit où, en fait, on rabat les cartes et on essaie de ramener un peu d'égalité là où on sait qu'il y a des inégalités dans les familles, dans les foyers. Mais est-ce que sur ce domaine-là, c'est la place de l'école également? On sait qu'en termes d'alphabétisme, par exemple, oui, c'est la place de l'école d'apporter le fait de savoir parler français, d'écrire correctement la langue, etc. Voilà, moi, je rentre pas, j'ai envie de dire, dans le débat. La seule chose que je sais, c'est que bah, j'ai questionné, c'est pourquoi est-ce que dans la sphère familiale, la discussion n'existe pas? Et du coup, je suis allée un peu interroger ma communauté pour comprendre pourquoi est-ce que, enfin, qu'est-ce qui posait problème. Et j'ai vraiment senti une énorme peur, en fait, de la part des parents et puis aussi de la part de toutes les personnes qui travaillent au contact des enfants, donc les éducatrices, les professeurs des écoles, les professionnels de santé, etc. Et en fait, ce livre, il fait un peu le grand écart. Et c'était peut-être ça, en fait, la nouveauté du livre, c'est de se dire, alors effectivement, on va prendre des enfants par la main, mais on va aussi prendre les adultes par la main. Mmh. Parce que quelque part, les adultes ont autant besoin que les enfants de se sentir accompagnés, de se sentir rassurés. Il y a un besoin de réassurance parce que nous-mêmes, on n'a jamais reçu ce bagage-là. Alors, on va le faire pour la première fois. Et en fait, c'est là où on se rend compte que l'absence de modèle, l'absence de transmission au-dessus de nous, bah, fait de nous ce que je dis la génération pionnière. Donc, on part d'une feuille blanche. Et on y va. C'est un peu le saut. Allez, on va sauter tous en parachute. Ça va être très cool. Et en fait, ça va très bien se passer. Vous allez voir. Et du coup, j'ai une fille, une maman qui tient un blog, un compte de maman, qui a écrit ça dans... Voilà, elle dit... vous allez voir, il y a marqué... alors, on y va. On prend notre envol. On respire un beau coup, puis on y va. Puis vous allez voir, chapitre 2, ça commence par... Vous avez survécu au premier chapitre. Et c'est là aussi où on se rend compte que sorti de la sphère un peu féministe, déconstruction, etc., quand des personnes sont un peu plus éloignées, en fait, de ces luttes et ces combats-là, ce livre, il est effectivement... voilà, il faut l'appréhender. Et effectivement, les parents ressentent comme un réel besoin d'accompagnement. Et effectivement, avoir survécu au premier chapitre, enfin voilà, c'est vraiment un sentiment de « ouais, ouais, j'ai... » J'y ai perdu toutes mes dents, mais c'est bon, j'ai survécu. Et voilà, donc il y avait clairement une envie dans le livre d'accompagner les parents. Et ça, c'est quelque chose qui tranche un peu par rapport à tout ce qui existait auparavant. que moi, j'ai analysé parce que, étant éducatrice, mais pour les adultes, en fait, à la sexualité, au consentement sur mon compte, quand je me suis retrouvée face à des questions de mes propres enfants, « Maman, c'est quoi ton métier ?», il y a bien un moment où j'ai été obligée de répondre. Et en fait, je ne savais pas en fait comment leur expliquer ce qu'était la sexualité. Enfin, c'est vrai que pour des enfants, on a l'impression qu'on parle de deux planètes différentes et que est-ce que j'ai le droit en fait même de leur parler de ce que je fais, quoi, tellement ça semble éloigné de ça. Et quand ils m'ont posé la question, elles m'ont posé la question, « Maman, ça veut dire quoi sexualité ?» C'est pareil que sexe. « Mais ça veut dire quoi sexe ?» Et je suis là, « Ok. » Donc, pas y couper. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé un vrai travail bibliographique que font plein d'autorices quand on commence un ouvrage. C'est-à-dire, je suis allée regarder tout ce qui existait sur le sujet, j'ai tout acheté, j'ai tout épuisé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des livres pour les parents, pour le coup. Par contre, ces livres ne s'adressaient pas aux enfants. Il y avait des livres pour les enfants, et on en parlait tout à l'heure, Le Zizi Sexuel, par exemple, qui est un livre purement, vas-y, démerde-toi, qui n'est pas du tout un livre qui permet la conversation, ou en tout cas qui permet de se poser avec l'enfant. Il n'y a pas de transmission transgénérationnelle, en fait. Et d'autre part, et ben, sans vouloir porter atteinte plus que ça au livre Le Zizi Sexuel, qui avait déjà le mérite d'exister, quand rien n'existait en fait. Donc je pense qu'on peut lui rendre grâce déjà pour ça. Néanmoins, à l'aune des connaissances qu'on a aujourd'hui, à l'aune du travail et des transformations sociétales qu'on vit aujourd'hui, en fait ce livre, il n'est plus adapté. Quand on le lit aujourd'hui avec des yeux un peu déconstruits, on se dit « Oh là là !» Oh là là, non, il a pas fait ça, non. Voilà, en fait, il y a plein de choses choquantes. Par exemple, le doigt dans la page, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un doigt dans un trou qui symbolise le sexe. Voilà, donc effectivement, le sexe, c'est que de la pénétration. Il y a des parties qui sont aujourd'hui extrêmement problématiques. Et donc, je me suis dit, très bien, bon, ça, c'est l'existant. Qu'est-ce qui va, moi, m'aider à expliquer mon métier à mes enfants? Qu'est-ce qui va m'aider, moi, à transmettre tout ce que, aujourd'hui, je constate comme carence? Et je la constate chez les ados, parce que du coup, j'ai beaucoup d'ados qui me lisent. J'ai également des adultes et des jeunes adultes qui me lisent. Et comment on fait, en fait, pour que ces personnes arrivent à la majorité, à leur majorité sexuelle, en ayant un minimum de bagages? Et ce bagage-là, c'est les parents, c'est la famille, c'est le cercle proche. C'est la famille au sens vraiment large qui est censée l'apporter. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, mais il faut faire quelque chose.
Tu parles beaucoup, en fait, de cet endroit où c'est la rencontre entre les parents et les enfants. Et ça, c'est un détail, en fait, qui m'a vraiment beaucoup touchée dans le livre. Alors, c'est incroyable pour quelqu'un qui, d'une certaine manière, est quand même assez éloigné de devoir transmettre au quotidien ce genre de thématique. Mais pour autant, tout ton paragraphe, dans les toutes premières pages, où tu annonces qu'en fait, le parent garde son intimité, tout comme l'enfant garde son intimité. Et donc, comment parler de sujets très intimes sans dévoiler et se mettre mal à l'aise? Parce qu'en fait, si je peux imaginer en fait l'endroit en fait de malaise que peut être cette discussion là et pourquoi les parents parfois l'évitent au maximum, c'est qu'ils ont l'impression de se dévoiler eux-mêmes. Exactement. Et qui a envie de parler de sa sexualité là comme ça sous une question inattendue ou voilà, personne. Après, quand on est dans un endroit d'écoute et fait pour ça, c'est génial, mais quand on est surpris par la question, et en plus d'un enfant, on ne sait pas ce qu'on doit dire, ce qu'on peut dire, etc. Et cette question de l'intimité, j'ai trouvé que c'était vraiment brillant, parce que c'est de remettre, en fait, sa part intime à soi, et de bien dire à chacun, c'est tout à fait respectable, en fait. Il faut absolument protéger cette petite part d'intimité, et trouver d'autres systèmes pour ne pas mettre mal à l'aise ni l'enfant, ni le parent. C'est vraiment un endroit, toi, que tu as travaillé.
Ouais, c'est hyper clé. Enfin, je trouve que c'est vraiment un point clé. Effectivement, donc c'est la boîte à outils qui est en début d'ouvrage et qui est incontournable, je pense, pour les adultes qui vont prendre en main le livre. Et en fait, quelque part, c'est effectivement le cœur de plein de choses. En fait, l'éducation à la sexualité, au consentement et à l'intime, c'est pas dévoiler sa propre intimité parentale. Voilà. Et c'est pas non plus entrer dans l'intimité de l'enfant. Et en fait, donc, il y a ces deux intimités-là qui sont des monuments, en fait, auxquels il ne faut pas toucher. Et donc, tout le secret du livre et tout le secret globalement de l'éducation à la sexualité qu'on transmet aux enfants et aux ados, ça va être de louvoyer entre ces deux intimités-là, tout en les respectant. Dit comme ça, ça a l'air... ça a la mer à boire, n'est-ce pas? Et en réalité, c'est qu'une méthodologie, en fait. Donc le livre, je pense, prend tout le monde par la main, en train de dire, regardez, ça a l'air impossible, mais on va le faire. Vous allez voir, ça va le faire. Et effectivement, donc, à travers les 100 questions, et puis à travers toutes les intros, où je replace un peu les choses en disant, voilà, comment on va aborder le sujet? Donc je vais vous protéger, je vais protéger l'enfant, et vous allez voir, on va vraiment faire ça, quoi. Et bien, voilà, j'emmène les adultes avec moi dans ce voyage-là, Et il y a un truc dingue qui se passe, mais qui s'appelle l'expérience, c'est qu'à force d'avancer dans le livre, en ayant l'habitude, en fait, de complètement préserver ces deux intimités-là, et après 8 chapitres où on a fait comme ça, et ben en fait, on sait nager. Voilà.
C'est exactement ça, nageons vers la sexualité positive. Voilà. Très bien. Ce terme-là, d'ailleurs, de sexualité positive, c'est aussi le deuxième très gros point fort de ton livre. C'est-à-dire, de un, il fait le bon équilibre entre parents et enfants, paroles bienveillantes, etc. Mais aussi, c'est toute l'inclusivité et tout le bonheur, en fait, qu'apporte la découverte de son corps, de l'amour et de la sexualité. Ouais. Parce qu'on a pris l'habitude, et notamment, alors je ne peux jamais que parler que de ma génération, mais des années 80, où on nous a dit, tu peux pas tomber enceinte, tu dois pas avoir des maladies, donc tu fais ci, tu fais ça, mais jamais on nous a parlé de plaisir, jamais on nous a parlé de juste de bonheur d'être ensemble, ou d'être tout seul avec soi-même, ou enfin toute seule, pour mon cas en tout cas. Et donc, cette notion-là d'aller vers le positif, ça paraît simple, mais en fait, quel bonheur. Enfin, sans faire... Voilà, je vais faire tout le lexique du bonheur, du plaisir, etc. Mais ça paraît tellement évident, et en même temps, ça l'était pas du tout.
Bah, ça l'est pas pour notre génération, qui est une vraie génération sida. Enfin, je pense que je fais partie de la même génération que toi. Et nous, on a grandi avec des cours d'éducation à la sexualité où effectivement, on nous dit « Oh, attention, oh, sida, VIH, IST, oh non, pas là non plus, grossesse non désirée, oh, agression sexuelle !» Alors oui, c'est hyper important, et d'ailleurs, je le dis hein, et je le redis, c'est hyper important de parler de ces sujets-là, c'est de la prévention. Par contre, pour des personnes dont l'intégralité de l'éducation à la sexualité a été une approche dite par les risques, bah, en fait, moi, je me rends compte quand j'interviens au milieu scolaire, qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas commencé à répondre aux questions des enfants. C'est pas ça du tout qui intéresse les enfants. Ce qui intéresse les enfants, c'est est-ce que ça fait mal, quand est-ce qu'on peut le faire, et pourquoi j'ai des éjaculations nocturnes, est-ce que ça va continuer comme ça toute ma vie. Enfin, c'est ça en fait qui les intéresse. Hein. Et pourquoi quand je me doite, pourquoi ça me donne pas de plaisir. C'est ça que j'ai dans les questions, dans les collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. Et ben ça, on revient à quelque chose de très basique, et du coup, c'est aussi le pari du livre, c'est quand on revient déjà à l'anatomie. Quand on écoute le corps, quand on le représente, quand on le nomme correctement, déjà, on part de, voilà, des bonnes bases. Et puis derrière, et ben, on va décrypter un peu ce qui se passe. Et du coup, là, j'étais, par exemple, à Bordeaux avec des collégiens, collégiennes. Et du coup, les questions des propriétaires de pénis, c'était est-ce que mes éjaculations nocturnes vont durer toute ma vie? Alors, je trouvais ça mais passionnant. Je me suis dit, bah ouais, bah écoutez, vous voyez un corps d'enfant, ok. Vous voyez un corps d'adulte, ouais, il y a un petit peu quelques différences, ok. Et ben, imaginez-vous, pour vous, un propriétaire de pénis, qu'en quelques années, en fait, il va y avoir vos couilles, vos testicules, qui vont travailler d'arrache-pied pour transformer votre corps de l'un à l'autre, ok. Tous les signes sexuels secondaires, en fait, vont apparaître à travers la puberté, et pour ça... Il y a des testicules qui vont travailler H24. Vous voyez le hamster, là, dans une cage, là? Ça, c'est vos testicules pendant la puberté, en fait.
Cette image ne va plus jamais sortir.
Donc effectivement, donc ça produit à la fois énormément de testostérone qui permet la transformation de votre corps et l'apparition de tous les signaux sexuels secondaires. C'est également l'apparition des spermatozoïdes, c'est la spermatogénèse, et puis globalement le sperme. Donc en fait, le corps, il est débordé. Donc qu'est-ce qui fait de tout ce sperme? Soit vous les évacuez à travers des masturbations volontaires, soit le corps va les évacuer de manière naturelle au moment du sommeil profond, voilà, et tout se passe bien. Et en fait, une fois la puberté achevée, et ça peut s'achever à 17, 18, 19 ans, et ben derrière, ces épisodes-là seront anecdotiques, continueront peut-être à exister, mais ça va se calmer, il y a un jour où ça ne sera pas comme ça toute votre vie, en fait. Tout va bien. Et en fait, on replace les choses sur le corps, et c'est l'essentiel. Donc là, je vous parle d'un discours d'ado, donc qui n'est pas le discours du livre. En fait, on repart sur l'anatomie, la physiologie, et on repart également sur la notion de plaisir, parce qu'il y a également, à travers ce que vivent les enfants, et on a les chiffres. Il y a 30 à 40% des enfants qui se masturbent. En tout cas, c'est ce que relèvent les adultes. Je pense que si on interrogeait les enfants, ce sera peut-être encore plus. En fait, oui, le frottement d'un clitoris ou d'un pénis provoque des sensations. Et ça, c'est une sensation que les enfants connaissent, qui, elles, n'expliquent pas. Les parents qui sont témoins de la scène ne savent pas forcément comment réagir. Donc, en fait, tout est dans replacer cette expérience-là dans, voilà, quelque chose de profondément humain, naturel, et avec un vrai regard bienveillant et positif en train de te dire, tu sais quoi, c'est super ok, c'est super normal, C'est des tissus érectiles et ils sont là pour ça, en fait. Ils sont là pour provoquer ton plaisir et c'est génial. C'est une sensation que, voilà, que tu vas pouvoir répéter à l'envi. Ce qui est important, c'est que tu préserves ta propre intimité, celle des autres. Donc, en fait, je t'invite à continuer à faire ça. Donc, par exemple, dans ta chambre ou dans un lieu où tu te sens calme et où tu pourras le faire sans être dérangé. Est-ce que tu es d'accord ?
C'est exactement ça. Non, mais tout ton déroulé, en fait, à chaque fois de penser autour de une question, comment on répond, et surtout en gardant cette bienveillance, c'est-à-dire ne pas mettre de honte, de parce que c'est là où se créent les tabous, les craintes, et où des enfants après n'oseront plus jamais approcher du tout ces zones, etc. Et c'est de vraiment y aller en douceur, en disant mais c'est ok, tout est super ok, juste en effet dans ta chambre, dans ton endroit, là où tu te sens bien, etc. Et de créer en fait ces pré-discours là, parce qu'en fait tu crées des réponses. Mais ça nous met vraiment dans un raisonnement acquis. Parce qu'une fois qu'on a lu le livre... mais non, mais en fait, je trouve que c'est un super exercice, d'ailleurs, de lire tout le livre, même si c'est pour des enfants d'un âge bien particulier. Ou ouais. C'est vraiment, en fait, de se mettre dans ton système de pensée. Et à force, comme tu le disais, sur la vague et on apprend à nager, c'est vraiment ça. C'est à force, en fait, on est dans ta façon de penser. Et donc, les réponses vont systématiquement, j'ai l'impression, être déjà façonnées. Et petit à petit, on se les approprie de manière très spontanée, en fait.
C'est une méthode, ouais.
C'est une méthodologie.
Voilà. C'est une méthode bienveillante, vraiment accueillir l'autre, accueillir le vécu. Mm-hmm. Et effectivement, de manière positive, sans avoir... quelque chose qu'on nous a imprimé et qu'on a tendance à calquer sur les autres, qui est une approche par les risques. Voilà, je rappelle en fait que, vous savez, plus vous allez parler de sexualité avec vos enfants, c'est statistique, hein, moins vos enfants auront en fait d'IST, de grossesse non désirée et d'agression sexuelle, que ce soit côté agresseur ou agressé. Mmh. Et en fait, l'approche par les risques, elle va venir dans tous les cas en fait. Enfin, quelque part, vous allez protéger votre enfant dans tous les cas. Mais vous allez aussi pouvoir le faire en parlant de choses positives, et c'est ça qui est un peu fou en fait dans cette histoire, c'est que vous allez protéger votre enfant en lui donnant des informations qui ne sont pas anxiogènes, qui sont des informations apaisantes. Vous allez pouvoir être réellement à son écoute, et je pense que c'est un peu le cœur du sujet. Je pense que ce dont un enfant a besoin, c'est d'amour et d'écoute. Voilà.
Oui, et puis vous lui épargnerez pas mal d'heures de psychanalyse et de... Parce que, c'est vrai, il y a ça aussi. Encore une fois, on est une génération qui a pas du tout été... qui a été très seule, en fait, dans la découverte de quasiment tous les sujets, sauf pour les familles formidables, mais j'entends toutes celles où c'était vraiment une tension d'en parler, où il valait mieux laisser ça à l'école, ou etc. Mais il a fallu plus tard, quand on était adulte, ou si on avait la chance d'avoir déjà cette curiosité-là étant ado. Mais en tout cas, il a fallu se créer son propre bagage, et ça prend du temps. Et quand on a déjà, en fait, des systèmes de pensée plutôt négatifs, de peur, de crainte, de honte, surtout la honte, quoi, en sexualité, ouais. La honte, elle est fort, fort, fort présente quand même
étant adulte.
Elle
est très difficile à déconstruire, et quelque part, je reçois tout le backlash, en fait, de cette génération qui n'a pas eu les bons messages. Donc, dans les 5000, 6000 messages que j'ai par semaine, je reçois, en fait... exactement tout ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas eu les bons messages, que ce soit des messages de honte, mais d'ailleurs on touche du doigt des choses qui vont impacter la vie des adultes. Je parle de dyspareunie par exemple, de douleur à la pénétration et de vaginisme. Quand on creuse en fait dans le vaginisme sur l'aspect, moi je vois ça en sexothérapie, il y a quand même cette espèce de stigma autour de la sexualité, de la honte, de quelque chose d'interdit qui est très présent. Je vais également parler de toutes les agressions sexuelles, toutes les violences sexuelles. Je suis désolée, si je vais mettre un trigger warning sur la suite. Si vous vous sentez pas d'écouter, c'est bon. Okay, je vais en parler. Au niveau des violences sexuelles qu'on me relate chaque jour, c'est à peu près 5% des messages reçus. Je rappelle également dans le livre qu'il y a 40% des violences sexuelles qui interviennent avant l'âge de 15 ans. C'est les chiffres, c'est les stats nationales. C'est pas qu'une question de on va avoir du mal à prendre son pied. On va avoir du mal à se développer et à pouvoir être soi-même. Je pense à toutes les personnes qui ne sont pas cisgenres, par exemple. On va avoir du mal à aller vers des personnes qu'on aime, en tout cas qu'on a envie d'aimer. Je vais parler des orientations sexuelles. Alors, il y a également tout ça dans ce volet d'inclusivité et de bienveillance. Mais il y a également toutes les violences qu'on ne dit pas, toutes les violences sexuelles que vivent les personnes mineures. Et c'est des chiffres hallucinants. C'est là, en fait, où on se dit à la fois, il y a un travail d'écoute des enfants et il y a aussi un travail fondamental de protection des enfants.
Oui, non, mais c'est énorme. Au fur et à mesure, en fait, de ton récit et de ta méthodologie, tu donnes aussi des chiffres. Tu appuies, en fait, ce que tu dis en disant, non, mais c'est pas juste une idée comme ça de tendance féministe. Non, non, en fait, là, ça en va de la survie des enfants que de les écouter, de les préparer, j'ai envie de dire, et en même temps, juste de changer la donne, en fait, sur la transmission.
Ouais.
Il n'y a rien à faire. On est, nous, d'abord inquiétés. Mais en fait, c'est toutes des générations qui vont changer au fur et à mesure.
Exactement.
Par ces transmissions.
J'apaise les parents. Enfin, ensuite, il y a des chapitres, effectivement. Je ne sais pas comment vous le dire sans vous inquiéter. Mais voilà, les chiffres, c'est quand même ça. Et c'est des chiffres monumentaux, en fait. Et quelque part, le seul moyen que vous pouvez avoir de vous apaiser, en tout cas, moi, c'est le seul que j'ai trouvé, c'est d'éduquer mes enfants aux notions d'intimité et de consentement. Rappeler que leur corps... J'ai utilisé des visualisations qui parlent beaucoup, je pense. Typiquement, pour l'intimité, je leur parle d'un château fort. Voilà. Votre corps, visualisé comme un château fort. Donc, quand il y a des personnes qui viennent visiter ou envahir le château fort, eh bien, ils arrivent devant. Et en fait, si on est consentant aux visiteurs, à laisser entrer les personnes, alors on va dresser la herse, on va baisser le pont-levis, voilà, on va faire entrer les gens. Mais les personnes, dans tous les cas, vont nous demander avant d'entrer. Vous êtes le roi, la reine de ce château fort. Eh bien, c'est pareil, votre corps... C'est un château fort. Il n'y a personne qui peut y avoir accès sans votre autorisation. Et tant que vous n'avez pas levé la herse, baissé le pont-levis, personne n'a le droit d'y avoir accès, c'est très simple. Donc en fait, si une personne commence à vouloir y accéder alors qu'elle n'a pas posé la question, bah, tout de suite, red flag. En fait, on crée effectivement des conditions pour que l'enfant puisse identifier des situations où bah, voilà, y a un truc qui se passe qui n'est pas une situation normale. Et j'invite du coup aussi les parents à prendre ces habitudes-là, à éduquer ses enfants au consentement par mimétisme. Simplement, à travers de... Je peux te prendre dans les bras. Est-ce que c'est OK que je touche cette partie-là de ton corps pour la laver, par exemple, etc. À partir du moment où nous-mêmes, en tant que parents, éducatrices, professeurs, etc., on est exemplaires en termes de consentement vis-à-vis de nos enfants. À partir de nos enfants prennent conscience du fait que nul ne peut avoir accès à leur corps sans leur avoir demandé auparavant leur consentement, on crée en fait quelque chose de vraiment incroyable. Il y a un déclic qui se fait chez l'enfant qui est « on me demande avant de toucher mon corps si je suis d'accord ». Enfin, c'est évident en fait. Et cette évidence-là, elle est fondamentale. C'est un pouvoir que vous donnez à votre enfant qui est un vrai pouvoir pour tout le reste, puis c'est un pouvoir qui va également vice-versa, c'est-à-dire ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, donc en fait, tu vas demander également le consentement de tes camarades avant de les prendre dans les bras, de lui faire un bisou, de lui prendre la main, etc. Et là, en fait, on crée des conditions pour que la génération suivante ait pigé que chacune maîtresse de son corps, intimité, consentement, c'est respecté. Et effectivement, j'ai des retours de parents, en fait, qui me réchauffent le cœur, qui me bouleversent. Genre, d'habitude, ils me sautent dans les bras, etc. Et là, c'est « Maman, je peux te faire un bisou ?» Et en fait, les enfants intègrent à une vitesse, mais grand V. On va parler de neuroplasticité, et en particulier chez les enfants, ça va super vite d'imprimer des choses, voilà, enfin, dans tous les sens d'ailleurs. Est-ce que les adultes se rendent compte à quel point ils ont un super pouvoir sur les enfants? Je ne sais pas. Mais utilisez ce pouvoir à bon escient et transmettez, du coup, des bonnes choses à vos enfants. Vous allez voir la vitesse à laquelle les enfants, en fait, captent les trucs. Et ça, cette espèce de gymnastique de « je fais respecter mon intimité et je demande le consentement des autres », c'est un truc, mais à la vitesse de la lumière, les enfants captent. Moi, je les vois évoluer à la maison et je me dis, mais ça y est, la nouvelle génération a pigé, en fait. Si on arrive à... Alors, je vais pas dire mettre fin à la violence sexuelle en une génération, mais c'est quand même un peu ça l'idée, c'est-à-dire de transformer complètement la génération qui arrive en une génération capable de faire respecter son propre corps, son intimité, son territoire, est capable complètement de respecter le territoire d'autrui.
Mais c'est tout simplement en fait passer de penser qu'un enfant est juste la propriété de parents à c'est un individu qui a sa vie propre, son corps propre et qui doit exister en tant que tel. Enfin, parfois dingue de se dire que en 2021 en fait
on se retrouve à dire ça.
Il est temps de considérer l'enfant depuis sa naissance comme un individu et non pas quelqu'un à façonner à envie et qui deviendra plus tard à l'adolescence son propre lui quoi.
Il y a une vraie infantilisation derrière tout ça. Derrière non. Alors moi il y a quand même des parents qui me disent ah mais 5-12 ans mais c'est quand même très jeune. Je suis là ok, alors comment te dire? Bon, je vais juste répondre avec des chiffres comme ça tu vas piger. Donc l'âge médian du premier porno en France c'est 12 ans, exactement. Donc en fait, 50% des enfants ont vu du porno avant 12 ans, c'est ça le chiffre. Donc en fait, vous pouvez effectivement décider que ça va se faire après 12 ans, mais dans ces cas-là, vous êtes d'accord à 50% pour que la première représentation de la sexualité qu'est votre enfant, ce soit à travers YouPorn. Vous êtes d'accord ? On est d'accord. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un moment, en fait, faut parler aux parents le langage qu'ils veulent. Il y a effectivement une grande infantilisation et puis aussi une espèce de vraiment on va mettre ça sous le tapis, c'est-à-dire on va pas le nommer comme ça n'existera pas. Je fais oui, alors du coup c'est pareil pour l'inceste, on va arrêter de le nommer comme ça n'existe pas. C'est quand même très problématique cette espèce de croyance que en arrêtant de parler des sujets, il n'existe pas. En fait, votre enfant, elle, a une vie sexuelle bien avant la puberté. Voilà, c'est tout. Donc votre enfant, on a des échographies de fœtus en train de se branler, très bien. Les enfants se frottent contre leurs doudous, leurs oreillers, leurs matelas, etc., leurs pommeaux de douche, très bien. Voilà, leurs enfants ont leurs premiers sentiments et émotions de tout ordre vis-à-vis de certaines personnes assez jeunes. On peut décider en fait de les accompagner en fait à travers cette connaissance, de leur donner un bagage qui va leur permettre de se connaître elles-mêmes et de se construire et de se protéger, de protéger autrui. Ou on peut décider que oh non, c'est des enfants, on va pas leur parler de ça. Voilà. C'est tout.
Donc en effet, tu rappelais l'âge 5-12 ans, et c'est là où c'était marrant dans ma lecture, puisque j'ai oublié au fur et à mesure qu'il y avait ces passages-là, et j'avais vraiment l'impression d'avoir une histoire graduée. Enfin voilà, on commençait avec, du coup c'est en trois parties, qui sont visuelles, puisque c'est des couleurs, des codes couleurs à chaque fois. Et donc on commence par un sujet, et c'est d'abord pour les 5 ans, et puis après on passe à la tranche d'âge qui doit être du 7-10, et ensuite c'est 10-12. Et en fait, c'est vrai que tout fait super sens. Enfin, c'est-à-dire que dans la lecture, on a besoin du début pour comprendre la fin. C'est pas comme si on pouvait passer en fait, les deux premières parties. Oui. C'est un process de compréhension, de transmission. Ouais. Et je me suis dit, ah, ben, c'est vraiment intéressant de voir ce qu'un enfant... Parce que souvent, peut-être que la question pourrait être des parents, mais qu'est-ce que j'ai le droit de dire à 5 ans qu'il faudrait plutôt dire plus tard, ou enfin il y aurait ces dosages en fait.
Énormément de questions de cet ordre-là, et beaucoup de parents qui sont paniqués. Alors, je crois que c'est les seuls moments de panique que j'ai. Mon enfant de 8 ans a embarqué le livre dans sa chambre. Et elle ne veut pas le rendre. Elle risque de lire les passages de 10 et plus. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui reprendre le livre et tout? Non, tout va bien. Mais c'est globalement les seuls messages un peu paniqués que j'ai. Je fais en fait le livre intégralement est safe. C'est-à-dire même si votre enfant a 8 ans et embarque le livre et lit l'intégralité, tout va bien se passer. C'est-à-dire il y a toutes les informations ont été un peu stamped, voilà, safe. Il n'y a rien qui peut porter atteinte à sa stabilité émotionnelle, affective, voilà. On les a classés de manière indicative avec donc la pédopsychiatre, le psychologue, le médecin, etc., par les professeurs des écoles, par tranche d'âge, parce que c'est vraiment de manière indicative l'âge auquel les enfants se posent la question et on a adapté le vocabulaire à chaque tranche d'âge. Néanmoins, si votre enfant de 8 ans, alors moi chez moi, c'est celle qui a 9 ans, qui a littéralement dévoré le livre dès qu'il est arrivé, donc elle n'a pas encore 10 ans, mais voilà, enfin, c'est un sujet qui la passionne. J'ai envie de dire mes 3 enfants. c'est un peu autiste, hein, parce que dans Sex Education, ça, on rentre dans la maison, alors il n'y a pas des phallus géants, mais il y a des clitos par contre géants. Ma mère qui entre dans la maison, elle fait « Mais t'as pas peur pour leur équilibre ?»
Au contraire, bien au contraire.
Non, bien au contraire. Donc celle qui a 9 ans a dévoré le livre et tout va bien. Et c'est d'ailleurs assez intéressant. Moi-même, je me faisais du mouron. Enfin, moi aussi, j'ai appris. Enfin, je pense que comme beaucoup de parents, j'apprends sur le tas. Et effectivement, ce livre, il a été également écrit. Puis d'ailleurs, des réponses sur lesquelles j'ai buté... j'ai également testé en fait sur mes enfants quand elle avait déjà posé la question en disant bon est-ce que ça suffit comme réponse, c'est bon je m'arrête là. Non pas du tout.
Oui, parce qu'il y a beaucoup ce principe-là.
Ouais, c'est
ça. De dire une première partie de réponse, ouais. On check si c'est OK ou c'est encore en demande, une deuxième partie, etc.
C'est ça, alors je referai la boîte à outils rapidement. C'est un, remercier votre enfant. L'enfant pose une question, déjà, dites pas, oh, putain, c'est pas le moment.
J'arrête tout.
Et j'ai généralement, en plus, c'est jamais le moment. Mais du coup, remercier. Grâce... Ah, merci beaucoup. Super question. Valoriser la question. Troisième chose, demande à lui, et toi, t'en penses quoi? Ça veut dire quoi, faire l'amour?
Et sans rire des réponses.
Et sans rire, ouais,
parce que
ça,
parfois, ça peut être... Enfin, c'est, voilà, c'est rester...
Regarder un masque à peu près neutre. Et quand votre enfant commence, voilà, vous pose la question, vous a présenté votre présentation, vous êtes là, vous écoutez, et à la fin, vous faites, ok, alors voici quelques, alors voilà, en fait, faire l'amour, eh bien, ça veut blablabla, et vous commencez, voilà, vous répondez en quelques phrases, de la manière généralement la plus évasive possible, enfin, je pense que vous êtes comme moi, donc faire l'amour. Alors, c'est quand deux personnes qui s'apprécient et qui ont envie de se rapprocher, qui ont envie d'avoir une relation un peu spéciale, un peu unique, qui leur appartient, décident d'inventer un langage, ça peut être des mots, ça peut être également un langage du corps, voilà, pour montrer à l'un, l'une, à l'autre, qui elles s'aiment. Est-ce que ça te suffit comme réponse? Ah bah non, maman, c'est pas du tout ça, hein. Moi, je voulais en savoir beaucoup plus. Ok, très bien, alors on y va. Ah bah voilà. Vous y allez par cercle concentrique, et en fait, le livre, il est conçu en fait sur ce principe-là, hein, globalement. C'est-à-dire, on y va de manière itérative, et à chaque tranche d'âge, c'est aussi à ça que ça correspond, on entre un peu plus en détail, dans le fond des choses. Quand votre enfant vous pose une question qui n'est pas dans le livre, ben, allez-y comme ça de manière concentrique, et à la fin du premier cercle, dites « Ça va, t'es content ? Contente ?» Non. Ok, alors on y va. Level suivant. On y va. Et puis vous y allez un peu plus loin, et puis là, vous finissez, vous faites « Là, ça va, hein, t'es content hein ?» Et votre enfant fait « Non, mais du coup, j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe quand... » Ok. On y va, troisième cercle. Là, vous allez un peu plus dans le détail. Donc, mais arrêtez-vous, c'est-à-dire, pour les parents qui ont peur de trop en dire, il suffit d'y aller comme ça, de manière concentrique. Et vous vous arrêtez à chaque step en disant « Ok, t'es content, t'es contente ?» Non, voilà, un peu plus loin. Voilà, donc moi, celle qui a 9 ans, elle passait sa vie à me dire que ça lui suffisait jamais. Donc, j'ai laissé mais toute ma sueur. Tout le reste, quoi.
Tu as été accompagnée par d'autres personnes pour checker, en fait, tes dires et tes écrits. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment très chouette, en fait, quand on appréhende un livre comme ça, qui doit vraiment être pris en main par les parents, etc., on a toujours envie que ce soit OK du début jusqu'à la fin. Et est-ce que pour toi, même si, compte tenu du fait que beaucoup de gens te connaissent, que tu es déjà, en fait, une réputation d'être très sérieuse sur le sujet, ouais, malgré tout, t'es allée chercher, en fait, d'autres personnes qui sont spécialistes à différents endroits, comment s'est constitué ce travail, en fait, avec eux et elles? Parce que je pense qu'on est sur, ouais, un collège mixte.
Effectivement, c'est un collège mixte de 6 personnes, 6 professionnels du monde médical et de l'éducation. En fait, moi, j'avais clairement dit à Albin, dès le début, je vous préviens, je veux un collège d'experts, expertes autour de moi. J'irai pas toute seule parce que on parle d'un sujet qui a trait à de la santé, enfin c'est de la santé publique, donc en fait il faut que des professionnels de santé. Voilà, donc c'est une question aussi de savoir rester à sa place. Là, j'avais envie de personnes qui puissent lire l'intégralité des questions, me faire des retours, et du coup toutes les personnes ont fait des retours, il y a eu des modifs. Voilà, ça a été un travail itératif, on a déplacé des questions d'une section à l'autre, enfin c'était voilà, moi j'ai trouvé ça essentiel. Ensuite, pour la plupart des personnes, en fait, on travaillait déjà ensemble d'une manière ou d'une autre. C'est des personnes avec qui j'avais déjà interagi, qui me semblaient à la fois solides, légitimes dans leur domaine, à la fois capables de me faire des retours cash. Parce qu'en fait, j'étais là pas en mode « faut pas me flatter, hein, faut y aller hein. ». C'est-à-dire, en fait, si vous y allez pas, les détracteurs du livre vont pas se gêner. Donc, en fait, s'il y a des choses à entendre et à modifier, faut les modifier pendant qu'on le fait, ce livre. Donc, répondez-y cash et on fera toutes les modifs, on reprendra toutes les parties qui ont besoin d'être prises, en fait. Il fallait vraiment un collège solide qui tienne la route, qui n'ait pas peur de faire des modifs. Et je trouve que voilà, ça s'est super bien passé.
Génial. Parce que ça donne vraiment un outil très fiable et très sûr. Ouais. Et ça, bah, sur cette thématique-là, c'était... quand même
non, c'est essentiel.
Évident.
Ouais.
Évidemment, je pourrais passer très longtemps à décortiquer chacune des parties et t'entendre raconter comment raconter, expliquer, etc. C'est passionnant. Mais un endroit qui m'intéressait pour terminer notre échange, c'est ta fameuse communauté. Parce que je dois avouer, donc en effet, Orgasme et moi, qui est ton site internet, enfin ton compte Instagram, en, ouais, fait. Orgasme et moi, c'est quand même un énorme phénomène. Comme tu viens de le dire, tu as jusqu'à 5000 messages par semaine. Félicitations, déjà. Mais ça me paraît dingue à vivre, en fait, au quotidien, parce que ce principe de communauté doit être hyper porteur, peut-être un petit peu envahissant parfois. En même temps, tu te retrouves avec les histoires de tout le monde. Ouais. Comme tu me le disais un peu précédemment, en fait, qui écoute toutes les histoires liées au corps, à l'amour et à la sexualité? En fait, bon, il commence à y avoir d'autres comptes Instagram, mais tu étais la pionnière, j'ai l'impression.
Alors, on était quand même une petite... moi, je me suis joint à la fête. Hein. Enfin, moi, je ne me considère pas comme pionnière. Non, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Moi, quand je me suis lancée, c'était en début 2019, février 2019. Il y avait quand même déjà, je vais les citer, hein, même si je partage pas tout, mais il y avait Tajoui, il y avait Jouissance Club, il y avait Gang du Clito, Clit Révolution, Je m'emballe Clito. Voilà, moi je suis arrivée sur une planète où en fait il y avait déjà des comptes Instagram qui existaient, sachant que moi en fait j'avais une activité sexo depuis 4 ans au moment où j'ai lancé le compte. C'est juste que je faisais partie des gens, je vivais aux États-Unis, pardon, quand Facebook a été lancé en 2004. Et du coup, j'étais sans doute une des premières françaises, en fait, sur Facebook. Et sans doute aussi, peut-être une des premières de ma génération à quitter Facebook, en fait. Donc moi, j'avais décrété, ouais, c'est bon, les réseaux sociaux, ouais, c'est bon, j'ai vu. Bon, maintenant, la vraie vie, c'est pas dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc j'étais hyper, hyper moralisatrice, hyper snob. Je suis désolée. En mode, il y a une vie en dehors et voilà, moi, ça y est, j'ai fait le tour, je suis dehors. Et en fait, c'est très drôle, je me suis remise sur les réseaux sociaux parce que ma sœur est partie vivre au Mexique et je lui ai dit, hey, meuf, tu m'envoies tous les jours toutes tes photos. Je fais, hey, Charlène, tu sais quoi? Tu vas arrêter de nous faire chier, tu vas faire comme tout le monde, tu vas te mettre sur Instagram. Ok. Je me suis pris ça dans la gueule et du coup, je me suis créé mon petit compte Instagram, en gros, 10 ans après tout le monde. Et là... Bah en fait, au début, bon voilà, je suivais ma sœur, quoi. Et puis à un moment, l'algorithme se met à proposer des choses. Et là, j'ai vu apparaître des comptes et je me suis dit, ah, 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 ah. Voilà, pour moi qui suis dans le milieu plutôt asso, LGBT, depuis 2003, 2004, je me suis retrouvée, en fait, sur des comptes. Et puis bon, voilà, moi, je suis dans l'éducation sexuelle, mais par le milieu plutôt LGBT. Je me suis retrouvée ayant mes contenus, mes blogs, mes événements sexo dans la vraie vie ou en dehors ou sur des blogs. J'avais la sensation tout d'un coup qu'il y avait une espèce de « Ah !» Mais en fait, tout ça, ça existe sur Instagram. Enfin voilà, il y a une espèce de... J'ai montré ça à mon mari, je fais « Hé, regarde, il y a ça, il y a ça. Te rends compte, ils font les mêmes. » Et mon mari a dû me dire « Bah oui, t'as qu'à créer ton compte Instagram. » Là, je fais en mode « Ah non, les réseaux sociaux, tu sais, moi j'avais dit... Puis de toute façon, j'ai pas le temps. Donc à l'époque, j'étais manager dans une grande banque, enfin bref, une grande boîte du CAC 40. J'avais mon équipe à manager, j'avais accessoirement 3 enfants en bas âge. Voilà, j'étais guitariste dans un groupe de rock, guitare électrique. J'étais chanteuse lyrique dans une chorale semi-pro. Je faisais de la pole dance et à mes heures perdues, je dormais. Et en fait, mon leitmotiv, c'était « j'ai pas le temps ». Et du coup, je dis « mais non, mais j'ai pas le temps ». Puis un jour, il y a une amie à nous qui est systématiquement en retard. On la connaît tous. On a tous une amie où quand on a un rendez-vous, une soirée à 21h, on lui dit « viens, 19 ». Voilà, bah, on a la même. Hein. Et du coup, bah, elle n'est pas arrivée à l'heure. Et on était comme des cons devant la cheminée en train d'attendre qu'Alexandra M veuille pointer le bout de son nez. Vraiment comme des couillons avec la bouteille de vin qui se réchauffait sur la tire. Voilà, et puis il y a mon mari qui me regarde, hey, tu vois que t'as le temps? Et voilà. Et du coup, c'est la naissance du compte Insta, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la sensation d'arriver, en fait, sur quelque chose qui existait déjà. Donc, il y avait des comptes qui existaient et que je trouvais géniaux. Enfin, je voyais pas en quoi ça apportait quoi que ce soit que j'ai le mien. Mon mari avait soutenu que ma chérie ne le prend pas mal, mais t'es un peu spéciale. Donc en fait la manière avec laquelle tu vas dire les choses sera forcément un peu spéciale et peut-être que ça va parler à certaines personnes. Voilà, je me suis dit, bon, voilà, les spéciaux, c'est bon. Donc c'est un peu la naissance et en fait effectivement c'est une commu qui est atypique, enfin, je pense réellement, qui est une commu voilà un peu bisounours. Il y a un côté très utopiste, je pense. On n'est pas forcément très, on touche pas forcément terre, mais en même temps on s'en fout, non? Voilà. Et ouais, j'avais pas imaginé que ça donnerait ça. Je suis juste hyper heureuse en fait. Ben voilà, au quotidien, là, avec la promo du livre, j'avais un peu arrêté les stories sexo parce que j'avais l'impression de devenir dingo, en fait, entre les interviews, les déplacements, les calls. puis aussi tous les retours du livre que j'avais envie de poster, que je reçois au quotidien. Et là, par exemple, j'ai enfin pu refaire une story sexo cette semaine sur les débuts sexuels tardifs. J'aime bien me reconnecter à ça, c'est vraiment une énergie qui me parle, en fait. C'est une intelligence collective que moi, je suis juste une passeuse, en fait, de messages qui sont de la bienveillance, du bon sens, de l'inclusivité, de l'écoute de soi et des autres, quoi.
Merci beaucoup pour tout ce travail. S'il faut quand même bien le noter. Tu notais en début de rencontre que je travaillais beaucoup, mais tu travailles aussi beaucoup. Je pense que c'est une valeur sûre dans les mouvements féministes. Nous travaillons beaucoup, fait, pour déconstruire tout ce monde et le reconstruire avec bienveillance et positivisme. Merci aussi pour la qualité de ton livre, pour cette belle discussion.
Merci, Sozy.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Charline Vermont à l'occasion de la parution de son ouvrage Phénomène, Corps, Amour, Sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser, aux éditions Albin Michel. L'Affranchie Podcast, c'est Sozy Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.